Radio Kiosque.
Lecture subversive une fois par mois. Radio Kiosque, l'info kiosque radiophonique de Radio Sainte-Afrique.
Garantie sans propagande.
J'ai beaucoup réfléchi si je devais sortir le projet ou pas. J'ai beaucoup réfléchi si je devais m'ouvrir sur la question. J'avais peur que ça serve à rien, que je sorte le sujet puis que ça m'apporte juste des problèmes. Mais je remarque en fait avec le temps que j'ai vraiment bien fait de le faire parce que ça, c'est plus grand que moi en fait. Parent Days, c'est 3 ans de ma vie. 3 ans de descente aux enfers. Je pense qu'à l'époque, ce que j'essayais de faire, c'était entre moi et moi-même. J'ai pas vraiment pris la décision de commencer un projet artistique. C'est quand j'ai vu que les photos matchaient ensemble que je me suis rendu compte que ça pouvait donner un projet. C'est sûr que c'est vraiment difficile de mettre à nu mon quotidien. Quand je regarde ça, j'ai l'impression de revoir passer toute l'histoire des 3 dernières années. À travers le projet, j'ai vraiment essayé de faire ça de façon chronologique, de la descente aux enfers jusqu'à au recovery. Il y a des photos qui me marquent plus que d'autres quand je les regarde. Sur cette photo-là, c'est la dose quotidienne dont j'avais besoin en 2017. Et j'ai fait la même photo un an plus tard avec le double de doses quotidiennes. Je dépensais 200 dollars par jour dans l'héroïne. Cette photo-là représente bien l'état dans lequel j'étais, que ce soit la solitude ou la déchéance physique. Ouais. Je voulais montrer tout le rapport au dealer, l'attente, l'argent qui part aussi. Dans la dernière année, je voyais mon dealer à tous les jours, des fois, 2 fois par jour. Et qu'en même temps, c'est quelqu'un qui te pousse au fond du trou, mais tu rentres aussi dans une espèce de proximité avec ton dealer. Les gens parlent d'un projet artistique, moi je parle de ma vie, de mon addiction. Je la vis à tous les jours. À tous les jours, je vais prendre ma méthadone à la pharmacie. À tous les jours, j'ai envie de consommer. C'est ma vie, fait que c'est toujours difficile de voir ça comme une œuvre d'art, puis de l'accrocher sur les murs, puis d'en parler. Mais là, ce que je vois, puis ce qui est vraiment important, c'est que ça prend de plus grandes proportions et que beaucoup de gens s'y reconnaissent, ou que beaucoup de gens sont touchés par ce que je dis et ce que je montre. J'espère que ça servira aussi pour humaniser un peu plus les personnes dépendantes, parce que dans mon parcours, j'ai trouvé que c'était vraiment un problème. Parler de l'addiction à visage découvert, c'est important. Pas assez de monde le fait. Je pense que je suis vraiment fier aujourd'hui que ça ait cette répercussion-là. Si ça peut servir mon projet, c'est tout ce que je demande.
Je n'ai pas vraiment écrit ce texte pour faire de la pédagogie. Ça viendra peut-être plus tard. Je n'ai pas écrit ce texte pour accuser qui que ce soit, car de toute façon, il est trop tard pour d'hypothétiques excuses qui ne serviraient à rien. J'ai écrit ce texte car il m'est apparu comme le seul espace dans lequel je pourrais m'exprimer librement, pour crever cet abcès que vous ignorez mais qui nous étouffe. Je parle de ce que je vis, de ce que je connais. Je n'ai pas vocation à représenter un groupe homogène. Chaque personne, chaque produit, chaque parcours est unique. Mais la toxicophobie, elle, s'applique à nous toutes les toxicos, et elle s'exprime à travers vous. À l'origine, la toxicophobie est le fait d'avoir peur des poisons, d'en ingérer ou même d'en faire ingérer à d'autres accidentellement. Aujourd'hui, cela désigne le sentiment négatif que ressent une personne vis-à-vis des toxicomanies et de fait des toxicomanes. Cette hostilité peut avoir des conséquences plus ou moins graves. L'impact ne sera pas le même lorsque le ou la toxicophobe est médecin, policier, journaliste ou que c'est un ami. Et une intensité plus ou moins forte, cela peut aller du mépris à la haine. Un des principaux effets de la toxicophobie est de faire éprouver au toxicomane une honte incroyablement tenace. Honte d'être ce qu'il est. Tellement tenace que même au pied du mur, ce dernier peut toujours nier sa consommation plutôt que d'avouer quelque chose d'aussi honteux aux yeux de la société. Pas facile dans ces conditions de mettre en place un parcours de soins efficace ou même de l'information sur la réduction des risques. Ça a au moins une conséquence, et s'il n'y en a qu'une seule que vous devez retenir, c'est celle-ci. la toxicophobie tue. Un second effet, en partie lié au premier, c'est le partage de mythes, croyances, fausses informations, voire contradictoires, qui ont un lien direct sur les consommations. Entre le coup de « si tu fumes un joint, tu finiras par te piquer »,« si tu prends du LSD, tu resteras perché », ou encore « l'héroïne, il suffit d'y goûter pour devenir accro ». Une phrase bien flippante que chacun a sûrement entendue au moins une fois. Mais voilà, les monstres n'effraient pas tous les enfants, tout comme certains n'ont pas peur de sortir seuls la nuit. C'est la même chose pour les drogues. Et ce qui est dangereux, c'est quand après la première prise, on ne sent aucun effet de manque, et qu'on n'a pas spécialement envie d'en prendre à nouveau. On comprend que ce qu'on nous a dit depuis qu'on est tout gamin, bah, ce sont des conneries. Enfin, pas que. Mais ça, on s'en rend compte tout seul, un peu tard. La toxicophobie, c'est aussi les pensifs du genre « les camés vendraient père et mère pour une dose ». La seule chose qui compte pour les junkies, c'est eux-mêmes. Un héroïnomane ne peut pas être en couple ou ressentir de l'amour pour quelque chose d'autre que la cam. Voilà de quoi dépeindre les pires sous-merdes et nous mettre directement au banc de la société. Et de quoi culpabiliser tous les toxicos, bien sûr. La toxicophobie est aussi dans le cinéma. Requiem for a Dream est toxicophobe, puisqu'on nous montre comment les drogues détruisent irrémédiablement la vie de ceux qui en consomment. Quatre protagonistes qui finissent soit en HP, soit en prison, soit à l'hôpital le bras amputé, soit être obligés de se prostituer, sans montrer des toxicos heureux.
Choisir la vie, choisir un boulot, choisir une carrière, choisir une famille, choisir une putain de télé à la con, choisir des machines à laver, des bagnoles, des platines laser, des ouvre-boîtes électroniques. Choisir la santé, un faible taux de cholestérol et une bonne mutuelle. Choisir les prêts à taux fixe. Choisir son petit pavillon. Choisir ses amis. Choisir son survêt et le sac qui va avec. Choisir son canapé avec les deux fauteuils, le tout à crédit avec un choix de tissu de merde. Choisir de bricoler le dimanche matin en s'interrogeant sur le sens de sa vie. Choisir de s'affaler sur ce putain de canapé et se lobotomiser au jeu télé en se bourrant de McDo. Choisir de pourrir à l'hospice et de finir en se pissant dessus dans la misère en réalisant qu'on fait honte aux enfants niqués de la tête qu'on a pondus pour qu'ils prennent leur lait. Choisir son avenir, choisir la vie. Pourquoi je ferais une chose pareille ? J'ai choisi de pas choisir la vie. J'ai choisi autre chose. Les raisons ? Y a pas de raison. On n'a pas besoin de raison quand on a l'héroïne.
Donc idem pour Trainspotting, qui, bien que ce soit un de mes films favoris, diffuse une vision très partielle de la toxicomanie. Les toxicos sont des voleurs et des voleuses, notamment entre eux. Ce sont des mauvais parents qui laissent leur nourrisson mourir de faim dans son berceau. Ce sont des menteurs dont la seule façon de guérir, car la consommation n'est perçue que comme une maladie, est le sevrage à la dure, puis l'abstinence la plus totale. Tout un programme. Je passe sur les films qui n'ont pas comme sujet la drogue, mais qui se servent de personnages toxicos souvent comme de méchants. Je pense notamment au méchant dans Léon, mais si celui qui croque à un cacheton et fait ensuite des trucs chelous, est-ce que vous l'avez ? Finalement, peu de films ont un regard juste et documenté sur la toxicomanie. Seuls les magnifiques Oslo, 31 août et Last Days ont vraiment réussi à capter un truc qui m'a touchée, dans lequel je me suis reconnue, et sont ceux, parmi les autres précédemment cités, qui ne montrent aucune aiguille ou cachet, comme quoi la toxicomanie ne se résume pas à du matos. Bref, tout ça pour dire que la toxicophobie n'est pas innée chez les gens, ce n'est pas un dégoût naturel, mais bel et bien une construction sociale de rejet, de dépréciation et de condamnation morale. Autant la consommation de certains produits peut être valorisée, notamment dans le milieu musical, autant la dépendance est le signe d'une faiblesse d'esprit, un vice, une honte, qu'il faut à tout prix faire disparaître. La toxicomanie, c'est la rencontre d'un être humain, d'un produit donné, à un moment donné. Claude Olivenstein.
C'est le mimi, c'est le rara, c'est le... Mira. C'est le miracle, il faut le dire, merci mesdames.
Donc la toxicophobie, c'est aussi de croire que tous les toxicos ont pris de la drogue pour rechercher du plaisir, qui savaient très bien ce qu'ils faisaient, mais qui ont continué dans une sorte de volonté autodestructrice. Ce discours moralisateur du péché de gourmandise ou de luxure, une sorte de lecture sadienne ou sadique du coup de la prise de drogue, ne peut pas être éloigné de la réalité. Je n'ai jamais connu de toxico qui se disait heureux avant de se défoncer. Le but final, s'il y en a un, n'est pas de rechercher du plaisir, mais de ne plus souffrir. Pas de voyage psychédélique inoubliable, on veut juste oublier. On ne veut pas ressentir les choses plus puissamment, bien au contraire, on veut s'anesthésier. La cam, pour moi, a été un palliatif au suicide. Mais cela ne veut pas dire que toutes les personnes qui consomment sont malades. Il y en a qui gèrent très bien leur consommation, il y en a qui ne gèrent pas du tout mais qui ne se définissent pas comme étant malades, il y en a sûrement qui consomment dans un cadre récréatif sans que cela ne traduise un mal-être. Et puis c'est peut-être d'ailleurs une des raisons qui font que telle personne consomme plusieurs fois et arrête comme elle veut, et que telle autre s'y accroche à vitesse grand V. D'où l'importance de ne pas amalgamer toxicomanie et défonce. Personnellement, l'héroïne a comblé un vide abyssal en moi. Un vide qui m'aspirait tout entier petit à petit. Elle m'a apporté ce bonheur que je n'arrivais pas à produire naturellement. Mais ceci est mon histoire, mon ressenti, et est donc unique. Bien qu'il y ait aussi des points communs, des récurrences avec d'autres histoires et d'autres parcours. D'où l'importance de dépasser les généralités pour écouter ce que chacun et chacune d'entre nous a à dire.
bathtub now in the beautiful vase. Well, if you're okay with that, maybe we can go and have fun together. There's no food, there's no light, and there's no calling all the time inside my mind. There's no food, there is no light, there is no calling all the time inside my mind. Give me goosebumps, give me goosebumps, I'm on fire. Give me goosebumps, give me goosebumps, I'm on fire.
Donc cela fait 13 ans que je suis toxicomane. D'abord héroïnomane, pendant un peu plus de 3 ans, je m'injectais de 1 à 3 grammes par jour. Puis substituée au Subutex pendant 7 ans, toujours en injection, je suis passée sous méthadone après une rechute voilà 3 ans. Et je suis complètement stabilisée. Je suis toxicomane mais peu de gens le savent. C'est le premier effet de la toxicophobie. Et pourtant j'évolue dans un milieu qui se veut ouvert. Je fréquente tout plein de gens cool, tolérants, bienveillants. Mais pas une fois je n'ai rencontré de toxicomane. Enfin, personne qui ne le revendiquait en tout cas. Pas un mot sur les tables de presse et autres infokiosques. Pas de ciné-débat, pas de caisse de soutien, rien. Quand on parle de discrimination, nous sommes souvent oubliés. Il n'y a que les fumeurs de bœufs et puis les consommateurs d'alcool qui sont relativement tranquilles tant qu'ils ne font pas trop de bruit. Car ils ne sont jamais classés en la case toxico. Pourtant, dans le monde merveilleux des addictions, il n'y a pas de différenciation entre alcoolique et toxicomane. Il n'y a que des personnes dépendantes. Par contre, parmi eux, il y a des héroïnomanes, des cocaïnomanes, des alcooliques, des fumeurs... Ah bah oui, tous ceux qui fument du tabac sont toxicomanes, enfin en théorie. En pratique, même la science nous divise. Regardez les termes. Comment appelle-t-on une personne dépendante à la nicotine? Un nicotinomane? Un tabacomane? Non, juste un fumeur. Et pourquoi on parle pas d'alcoolinomane ou d'éthylomane? Jusque dans les vocabulaires, on différencie les personnes dépendantes et les toxicos pervers. Et ça aussi, c'est de la toxicophobie.
du vin blanc, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles.
Donc la toxicomanie est trop souvent vue comme une déviance chez des personnes faibles. Et il n'en faut pas plus pour que certains milieux suintent de dédain et de dégoût pour nous. Les tox, ceux qui se foutent de la politique, ne pensent qu'à leur petite dose, qui se vendraient eux-mêmes et tous leurs potes pour un gramme de cam, qui salissent tout. Ce sont nous qui ramenons les keufs. Les toxicos sont les meilleurs indiques. Ce sont nous qui ramenons les dealers, qui eux-mêmes attirent les keufs. Ce sont nous qui pourrissons le quartier. Mon Dieu, nous avons trouvé des seringues usagées par terre alors qu'il y a des enfants environ ces malpropres. Certains se déclarent anti-autoritaires ou humanistes ou libertaires, mais adoptent avec une rapidité foudroyante les méthodes des keufs. Et ça, ça me dégoûte. La drogue individualise tout, et surtout les usagers. On ne voit pas, on voit que le drogué, jamais le système dans lequel il s'inscrit. Lorsque des seringues usagées sont ramassées dans un quartier, on crie haro sur les camés et on fait tout pour les chasser. Mais allez-vous piquer ailleurs, bande de drogués? Et si quelqu'un se demande mais pourquoi ils viennent faire ça ici? C'est dans le sens mais pourquoi ils vont pas ailleurs? Personne ne se dit, et si on allait leur parler, leur demander de jeter leurs seringues vides dans des bouteilles en plastique? Et si on essayait de trouver des solutions? Personne ne prend contact avec des associations d'aide aux toxicos ou avec un CARUD, centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue, par exemple. Non, on exclut, on rejette et on repousse le problème ailleurs. La vérité, c'est que les toxicos ne sont acceptés que par les toxicos. La médecine nous perçoit comme un public à risque, des marginaux, des cas désespérés. Le milieu scolaire ne nous voit pas, tout simplement. Les keufs nous chassent pour gonfler leur stade, pour s'occuper, pour rigoler. La justice nous voit comme des moins que rien, irrécupérables. Pour le mieux carcéral, nous sommes des détenus à risque. Pour le mieux mortuaire, des bons clients. Mais personne ne nous voit pour ce que nous sommes. Comme si les veines thrombosées, les mains gonflées, les crises de manque, les points d'injection infectés, les corps amaigris ne suffisaient pas. Il faut que le monde extérieur nous piétine pour se rappeler à quel point lui, il est bien. Comme ce keuf qui enfile soigneusement ses gants en cuir avant de fouiller mon sac et mes poches, qui me demande « Est-ce que vous avez quelque chose de dangereux ?» que je réponds non, et qui, lorsqu'il trouve une stéribox au fond de mon sac, m'attrape par la gorge, me colle contre un mur, et rouge de rage, me hurle au visage. Qu'est-ce que t'as voulu faire? T'as voulu me filer sida, c'est ça? Je t'ai demandé si t'avais des trucs dangereux, et tu m'as dit non, t'as voulu me baiser, hein? Alors que j'essaie de lui expliquer qu'une seringue non usagée, avec un capuchon sécurisé dans une boîte en carton fermée distribuée par l'État, n'est pas un danger. Mais il m'étranglait. J'ai cru qu'il allait me tuer et que tout le monde s'en foutait, car je ne suis qu'un camé. Comme ce juge qui me condamne pour incitation à consommation d'héroïne sur une mineure de 15 ans, parce qu'une copine voulait absolument essayer la cam, elle m'avait juré qu'elle le ferait quoi qu'il arrive, alors j'ai décidé de l'aider pour qu'elle le fasse de manière sécurisée et propre. Mais non, selon la justice, je voulais la rendre accro, pour profiter d'elle, pour devenir son dealer, car étant héroïnomane, je suis le mal incarné. Et tous ces potes qui se détournent de moi. Et ces vigiles qui me suivent dans les supérettes à cause de mon look de tuffeur, mon visage blanc émacié, mes yeux vitreux et mes pupilles grandes comme des têtes d'épingle. Et ces gens, peut-être vous, qui refusent de me donner une pièce parce que je vais pas m'acheter à manger, mais de quoi me défoncer à l'évidence. Ces boîtes d'intérim qui n'ont jamais rien pour moi parce que c'est flagrant que je suis toxico et qu'aucun patron n'acceptera un type comme moi et risquerait de ne plus faire appel à leur agence. Alors oui, j'avoue, je suis fatiguée et j'en ai marre. J'en ai marre de me cacher comme d'autres cachent leur cancer pour ne pas être licenciés, comme d'autres cachent leur homosexualité pour ne pas être rejetés, alors je le dis, je suis toxico. Voilà, tout le monde est au courant, c'est trop cool. C'est pas trop cool. Parce que maintenant, on ne me voit qu'au travers de mon parcours de toxico. Qu'au travers de la toxicomanie, comme si la cam définissait toute ma vie. J'ai réussi ceci, c'est génial. Surtout quand on voit d'où tu viens. J'ai échoué à cela, c'est pas grave, j'avais connu tellement pire. Lorsqu'on est toxico, on ne s'appartient plus. Les médecins savent mieux ce qui est bon ou pas pour vous. Votre famille, une fois au courant, vous questionne régulièrement sur votre suivi. Dis-moi Loulou, j'avais 25 ans, c'est la seule fois que mon père m'a appelé ainsi. T'en es où avec tes piqûres? Alors je lui explique de façon détaillée l'évolution de mon traitement de Subutex que j'ai toujours pris en injection. C'est pas un peu long quand même? Tu peux pas essayer de diminuer la prochaine fois? Ou même d'arrêter d'un coup? Eh ben non, je peux pas. Et même si je le pouvais, c'est pas à toi de me dire comment je dois gérer la posologie de mon traitement. Est-ce que je viens fourrer mon nez dans ton traitement pour ton diabète? Est-ce que je dis tu prends trop de ceci ou pas assez de cela? Bien sûr que non. Mais mon traitement ne m'appartient pas. Et je passe sur ceux qui se font confisquer leurs moyens de paiement, leur téléphone et parfois leur liberté. Combien de médecins m'ont forcé à diminuer la posologie, à faire du chantage du genre « vous arrêtez les injections » ou « je ne vous fais plus d'ordonnance ». jusqu'à dire des horreurs du style « Vous devriez vous ingérer de la bière ou du vin, ce serait pareil ». Il y en a même une qui voulait m'obliger à passer au Subuxone, mais j'ai refusé. Combien de pharmaciens ont refusé mon ordonnance sous différents prétextes tels que « Désolé, on ne fait pas ça ici, monsieur ». Combien qui refusent me délivrer mon traitement parce que je suis en avance alors que j'ai une ordonnance dite de chevauchement en règle de mon médecin. Ah, mais si on a un contrôle, on peut se faire fermer. On n'est pas des dealers, monsieur. Alors que, en fait, tout ça est faux. Aucune pharmacie n'a le droit de refuser une ordonnance. Une pharmacie ne risque rien si elle accepte un chevauchement d'ordonnance puisque c'est légal. Tout ça, c'est de la toxicophobie. Et moi, là-dedans, bah, je me retrouve en manque alors que j'ai accepté de jouer selon les règles du jeu du système. Alors, pourquoi continuer ? Aujourd'hui, personne ne se doute qu'un jour, j'ai été toxico. Aujourd'hui, je ne subis plus les contrôles aux faciès. Et pourtant, je suis toujours toxicomane. Mais voilà, je vais à la fac. Mon traitement de méthadone est stabilisé depuis presque 3 ans. J'ai repris du poids, des couleurs, laissé au placard mon look de tuffeur et arrêté les injections. Et pourtant, je suis toujours toxicomane. Car je subis toujours la honte d'aller toutes les semaines à la pharmacie, le même jour, car sinon cela peut poser problème, demander mon traitement. Mot pudique pour désigner ma nouvelle héroïne. Je subis le fait d'aller tous les mois à la même date chez le médecin, bien que celles qui me suivent aujourd'hui soient exemplaires, bienveillantes comme aucun médecin. Mais cela veut dire aussi que je ne peux pas partir faire un tour du monde, ou même partir 2 mois à l'étranger, sans remplir de la paperasse qui stipule que oui, je suis toxicomane et pas un dealer et que ceci est mon traitement. Et cela vaut pour le moindre déplacement dans la famille, car en cas de contrôle de police, je dois présenter mon ordonnance. Mes veines thrombosées le sont toujours et provoquent toujours des questions. Mes points d'injection au creux de mon bras droit forment une cicatrice de plusieurs centimètres qui suit mon artère. Et par-dessus tout, je subis chaque phrase merdique dont vous êtes toutes et tous un jour rendus coupables de dire et qui fait de nous des personnes pas fiables, monstrueuses, dégueulasses, infréquentables, pitoyables et faibles. Ce texte est un coup de gueule. Il n'a pas vocation à parler de toutes les pratiques. Il n'est pas exhaustif, il n'est pas pédagogique. Il représente juste mon point de vue. À vous d'écouter ceux des autres, car la drogue n'existe pas et les drogués non plus. Il existe des drogues et des personnes. Alors pensez-y, informez-vous, qu'on puisse toutes et tous en parler. Ne nous laissez pas sur le côté, ne rigolez pas à propos de toxicophobie. Soyez bienveillants si vous le pouvez, et sinon, laissez-nous juste vivre en paix. Anonyme.
La RDR, c'est la réduction des risques. Bah oui.
Je vais vous apprendre à monter des mailles, ce qui est la base du tricot. Donc, je prends mon fil, je vais tourner autour de mon pouce gauche, comme cela. Je rentre mon aiguille.
Oh, alors elle se prend trop la tête, mais c'est pas...
Autour de l'aiguille.
Ah, interdire l'usage de drogue et dans le même temps permettre la distribution de seringues et de matos stériles, ça c'est un message incohérent. Ah bon, mais je sais même plus ce qu'elle dit là. Et ça serait plus cohérent si l'État laissait mourir les usagers de drogue sans réagir. Je vais vous dire, aucune drogue n'enlève le statut de citoyen à une personne. Et ça au fond, on le sait tous. Quelqu'un qui veut consommer, consommera, quel que soit le lieu. Autant tenter de lui éviter les contaminations au VIH, aux hépatites. Et surtout qu'il casse pas sa pipe par overdose. Moi je pense que si la drogue est un danger, alors ne pas faire de la RDR, c'est tout simplement de la non-assistance à personne en danger.
Je rentre mon aiguille.
Perso, ça me semble aller de soi de donner aux usagers de drogue la possibilité de préserver leur santé et puis de s'en sortir, quoi.
Je vais monter mes 28 mailles.
Ah, et puis ça va, c'est pas parce que quelqu'un voit une seringue en vente libre qui va se piquer, non. La réduction des risques n'incite pas à se droguer. Par contre, ne pas faire de RDR, ça peut être dangereux pour la santé.
Vous obtenez alors ce résultat.
Eh, si tu sais pas, demande à Mémé.
Ce texte a été publié à l'origine sur Brest Média Libre, aujourd'hui bourrasque-info.org. Il s'agit ici de l'article légèrement modifié, publié le 14 avril 2017 sur paris-lutte.info. C'était Radio Kiosque et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Merci.
Radio Kiosque.
Lecture subversive une fois par mois. Radio Kiosque, l'info kiosque radiophonique de Radio Sainte-Afrique.
Garantie sans propagande.
Garantie sans propagande.
Garantie sans propagande.